Bonjour à vous toutes et vous tous. Nous sommes vendredi et oui, il est 13h. Si vous aviez l'habitude d'écouter l'émission Le National à midi, et bien maintenant avec la nouvelle émission Point de vue, d'ailleurs dont nous allons parler, réentendre Michel Poulain et Diane Felice qui l'anime. L'émission est maintenant diffusée à 13h, mais vous savez que vous pouvez la réécouter quand bon vous semblera sur notre site internet canalm.vusevoix.com. Alors, aujourd'hui, à cette émission, Le National, qui est consacré, vous le savez, au sujet d'intérêt général pour tous les francophones qui vivent au Québec et au Canada. Eh bien, donc, on va commencer avec les animateurs de Point de vue. C'était dans le cadre de l'émission Les Paractualités. Michel Poulain et Diane Felice viennent vous présenter ce nouveau magazine de service pour les personnes avec un handicap visuel et leurs proches, diffusé sur nos ondes, je viens de vous le dire juste avant moi, le vendredi à midi. Et c'est en collaboration avec la Fondation En Vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Alors, ils s'appellent Michel Poulain et Diane Felice. Il va falloir que vous vous habituiez assez rapidement à ces deux nouveaux noms que nous accueillons à Canalem. Bonjour, vous deux.
Bonjour.
Bonjour, Michel Poulain.
Avec
bonjour, Diane Felice.
Avec le soleil qui brille par son absence.
Oh, mon Dieu, aujourd'hui, c'est vraiment une vraie cata. Alors, on va, mais nous, ici, dans le studio, il fait bien chaud. Dès le vendredi 7 avril à midi, les animateurs d'une nouvelle émission qui va s'appeler Point de vue. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que j'adore ce titre et je la referme. Plusieurs émissions ont déjà été enregistrées au cours des dernières semaines. Alors, je vais me tourner peut-être vers vous, Diane. Vous animerez donc cette émission dès vendredi, Point de vue, ou Michel plutôt, Michel.
Oui, tout à fait.
De quoi traitera-t-elle cette émission exactement?
Effectivement, nous avons déjà enregistré quelques émissions et nous recevons une personne en déficience visuelle, mais qui est très active dans la société.
Oui.
Alors, qui sont des gens qui travaillent à plein temps et qui racontent leur vie, qui racontent leur cheminement, comment ils en sont venus à utiliser finalement de façon positive leur handicap pour bien réussir leur vie et être des actifs dans notre société. Alors, ce sont des témoignages extrêmement touchants, très intime. Et Diane et moi, nous voulions cette émission très intimiste avec nos invités et je crois qu'on y parvient très bien.
Sans compter Michel Poulain, et j'ai quand même oublié de le préciser, et c'est une omission assez grave quand même. Vous êtes le directeur général de la Fondation En Vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Vous êtes donc bien placé, entre guillemets. Oui. C'est un problème, un souci, la déficience visuelle que vous connaissez bien. Vous êtes actif depuis près de 20 ans dans le milieu philanthropique. Et tout d'un coup, pouf, la radio.
Pas tout à coup, parce que Diane et moi, nous avons, dans une autre vie, animé une émission pendant 4 ans. Donc, pour nous, c'est un retour à la radio. On en est très heureux, mais aussi de faire la promotion, faire connaître ce que l'Institut Nazareth et Louis Braille réalisent après 150 ans d'histoire.
Quand même,
Et une organisation absolument extraordinaire qui regroupe à peu près 200 personnes à l'Institut. Oui. Donc, au niveau de la Fondation, nous, notre travail, c'est d'amasser des fonds pour réaliser des projets particuliers. Mm-hmm. Et c'est de ça, entre autres, qu'on va traiter.
Alors, de la Fondation, il y aura plusieurs interventions. Donc, vous le disiez, comme des portraits, Michel Poulain.
Exact.
L'idée, vous en est venue comment?
Hasard extraordinaire. Oui. Tout à fait par hasard, dans mes fonctions à la Fondation de l'Institut Nazareth et Louis Braille, je tombe sur le site, les réseaux sociaux de Canal M et de Vues et Voix. Et je ne connaissais pas l'organisation. J'avais déjà entendu parler de la magnétothèque, mais jamais de Canal M.
Oui.
Alors, j'ai rencontré la direction générale et on s'est dit, est-ce qu'on peut faire un partenariat entre la Fondation En Vue, l'Institut Nazareth et Louis Braille? On est dans la famille.
Ben exactement.
Voilà. Et on a proposé, Diane et moi, ce projet d'émission pour faire mieux connaître, mais aussi pour donner beaucoup d'espoir aux gens qui vivent avec une déficience visuelle. Les gens que l'on rencontre et qu'on va rencontrer au cours des prochaines semaines ont réalisé et réalisent des choses extrêmement importantes dans notre société.
Alors, Diane Felice, parlez-nous justement de ces gens-là. Quels seront vos prochains thèmes et les prochains invités déjà de cette émission Point de vue?
Tout à fait fidèle à ce que Michel mentionnait. On va d'abord rencontrer M. Serge Savoie, qui est psycho-éducateur à Chambly. Lui a perdu la vue à la fin de la trentaine, donc il nous raconte son histoire et ses défis. Nous recevons également M. Dorijade, qui est directeur général d'une association nationale. Il a perdu la vue à la suite d'une maladie dégénérative à la fin de la quarantaine. Donc, il s'est trouvé un emploi alors qu'il était en cécité. Il nous expliquera son parcours. Et enfin, nous avons une émission toute spéciale avec les élèves de l'école Jacques Ouellette de Longueuil. C'est la seule école spécialisée pour la déficience visuelle au Québec. Donc, des jeunes très inspirants, remplis de rêves et de projets très stimulants.
Comme on peut l'imaginer. Dites-moi, j'ai entendu parler, la comédienne Pauline Martin va se joindre à l'équipe.
Absolument. Pauline Martin est notre marraine et la marraine à la Fondation En Vue.
Oui.
Pauline, elle est extrêmement disponible. Elle le fait de façon bénévole. Elle est avec nous dans nos activités. Elle fait la promotion de la Fondation En Vue. Et on a eu l'idée de l'inviter.
Ben oui.
Et elle a dit oui.
Oui, certainement. Elle est très intéressante et elle aura des capsules d'informations sur les réalisations de la Fondation, les projets de l'Institut Nazareth et Louis Braille et aussi des conseils santé pour la vision.
Pauline Martin, est-ce qu'elle a... Parce que pourquoi, on se demande, pourquoi cet intérêt de,
sa part? Sa maman, qui est décédée à l'âge de 100 ans, il faut le dire, a souffert de déficiences visuelles très importantes vers la fin de sa vie et sa sœur, Pauline aussi. Est en déficience visuelle. Donc, pour elle, c'est une cause qui l'interpelle personnellement.
Ceci explique cela, comme on dit.
Et elle est une personne exceptionnelle.
Ah oui, hein?
Agréable à côtoyer.
Ah, je n'en
doute
pas.
On a beaucoup de plaisir avec Pauline.
Eh bien, comme j'imagine, nous aurons beaucoup de plaisir avec vous et avec vos invités. On vous pourrait peut-être rappeler, qu'en pensez-vous, vous deux? Quand est-ce que l'émission commence? À quelle heure? Ça dure combien de temps?
Nous sommes gâtés. Parce que nous sommes en diffusion, bien sûr, le vendredi à midi. Alors, tous les vendredis à midi à compter du 7 avril. Nous sommes en reprise à 17 heures le vendredi. Et par la suite, il y a des reprises de cette émission le dimanche à 11h et 21h, le mardi à minuit pour les couches-tard, le mercredi à 1h du matin et 7h du matin et le jeudi à 8h le matin.
L'émission dure une heure.
Oui. Une heure de temps.
On a une heure d'émission. Et il faut dire aussi que nous aurons à chaque semaine, un employé de l'Institut Nazareth et Louis Braille qui vient nous expliquer son travail.
Et puis, Diane Felice, j'ai quand même parlé de ce que vous faites, Michel Poulain, mais avant qu'on se quitte, qu'on en sache un petit peu plus sur vous, Diane.
En fait, je dirige un cabinet privé en psychologie du travail. Donc, mon travail, je pose des questions au cœur de mes jours. Alors, ce sera le caractère intimiste de l'émission.
OK. Eh bien, merci beaucoup à vous
deux. Merci de l'invitation.
De vous être déplacés en studio pour nous présenter Point de vue. Ne manquez pas la première émission Point de vue vendredi qui vient le 7 à midi avec Michel Poulain et Diane Felice et leurs invités.
Merci.
Un sujet difficile que nous avions à traiter dans le cadre de la Journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes des mines antipersonnelles avec le directeur de Handicap International Canada, Jérôme Bobin. C'était également dans le cadre des Paractualités. Nous le retrouvons assez régulièrement avec grand plaisir ici sur les ondes. C'est Jérôme Bobin, directeur général de Handicap International Canada. Vous allez bien, Jérôme?
Ça va bien, et vous?
Très, très bien. Je vous remercie. Et malheureusement, c'est quand même toujours pour parler de choses qui ne sont pas reluisantes dans le monde, même si le travail continue.
Mais oui, mais c'est justement parce que le travail continue qu'il faut en parler.
Qu'il faut en parler, exactement, Jérôme. Alors, merci d'être là. On parle de l'année 2015. Je me rappelle que nous avions soulevé... déjà, ces tristes records, une année record en termes de nombre de victimes de mines et de restes explosifs de guerre. C'est ce qu'on appelle les REG, hein, je crois, dans le langage. C'est un acronyme que vous devez bien connaître. On parle d'une augmentation de 75% en 2015 par rapport à 2014.
Oui, en effet. Alors, pourquoi on en parle aujourd'hui?
On
en parle aujourd'hui
pourquoi?
Parce que c'est la journée de sensibilisation contre les dangers des mines antipersonnelles. C'est une journée qui existe depuis 2005. Et qui est là pour célébrer, si on peut utiliser ce mot, en tous les cas, garder vif l'attention sur le problème des mines antipersonnelles. Alors, en effet, les éléments qu'on a à disposition, c'est le dernier rapport qui a été publié en novembre dernier, 2016, et qui montrait une augmentation du nombre de victimes de mines. Vous l'avez dit, plus 75%. On est aux alentours de 6500 victimes par année, victimes de ces armes-là. Donc, et il faut bien se garder en tête pourquoi on en parle aujourd'hui sur Canal M. C'est parce que les trois quarts de ces victimes sont des personnes handicapées,
bien sûr,
amputées. Et c'est pas des personnes qui vont mourir. Alors on pourrait se dire, oh, malheureusement, la mort serait un aboutissement plus simple dans ce type de conflit. Mais non, en fait, ça crée une population de personnes handicapées qui vont après nécessiter une attention toute particulière. Et vous l'imaginez bien, pour reprendre cours de leur vie, reprendre la vie normale.
Dites-moi, dans quel pays en ce moment peut-on dire que la situation est la pire ?
À mon avis, vous les connaissez aussi bien que moi.
Oui.
On va parler de la Syrie, on va parler de l'Irak, on va parler toujours de l'Afghanistan, on va parler de la Libye. Souvenez-vous, hein, le conflit en Libye n'est pas si ancien que ça. On va parler du Yémen, le Yémen qui actuellement subit une guerre civile importante avec beaucoup d'usage de ses armes explosives. On va parler toujours de la Colombie, j'en ai déjà parlé sur ces ondes, mais aussi le Sri Lanka, le Cambodge, le Laos, tous ces pays-là qui sont encore pollués par ces mines antipersonnelles et ces restes explosifs de guerre.
En Europe aussi ?
En Europe, on va plutôt être sur la Bosnie-Herzégovine. On va être en Ukraine aussi. En Ukraine, l'usage de ces armes-là. Mais c'est vrai que c'est quand même plus concentré au Moyen-Orient et puis en Asie du Sud-Est.
Alors, ce que vous appelez les REG, R-E-G, les restes explosifs de guerre, hein, c'est bien ça ?
Oui, parce qu'on parle... Les mines antipersonnelles, c'est assez simple pour tout le monde de voir à peu près de quoi on parle. Oui. Mais en fait, on est confronté sur le terrain à tous ces restes explosifs de guerre qui peuvent être des restes de munitions qui ont été bombardés et qui restent non explosés sur le terrain. Et ça peut être, et c'est ça le principal problème actuellement dans les conflits modernes, ce sont les engins improvisés, les engins artisanaux.
Ah oui.
Qui sont là des mines antipersonnelles faites maison, en fait.
Ouais,
et
ouais,
ça, c'est très, très compliqué à détecter. Et puis surtout, ça peut être diffusé partout.
Oui.
Je veux dire, on n'est plus... C'est un peu le revers de la médaille du traité d'Ottawa qui interdit les mines antipersonnelles. Le traité interdit la production. Mais certains groupes armés ont contourné cette interdiction de production en produisant eux-mêmes, de manière artisanale, un certain nombre d'explosifs.
Et moins cher.
Moins cher, beaucoup plus instable, même si ces armes étaient déjà instables, mais l'artisanal est beaucoup plus instable.
Autrement dit, si ça ne, entre guillemets, permettez-moi l'expression, pète pas au moment où ils le veulent, ça peut très bien tout d'un coup exploser dans les jambes, malheureusement, de n'importe qui, 6 mois ou 1 an plus tard.
Voilà, et c'est bien le principal problème des conflits actuels, c'est que quand les gens retourneront chez eux, que ce soit en Irak, en Syrie ou au Yémen, ils seront confrontés à ces restes explosifs de guerre, et donc ils seront potentiellement en danger d'exploser. Hein. Une fois de plus, c'est les enfants les principales victimes parce que les enfants sont les moins préparés et habitués à être en confrontation avec ces engins-là.
Rappelez-nous, vous nous disiez comme chiffre au tout début de votre intervention, 6500 personnes par année à peu près.
La dernière année recensée, c'est 6500 personnes et c'est quasiment le double par rapport à l'année précédente.
Ça, c'est un prorata de combien de personnes à peu près par journée ? Là, j'essayais de... 17 personnes.
17 par journée de 24 heures.
C'est un
sujet qui est loin d'être ancien. Hein. Je vous rappelle que le traité d'Ottawa, qui porte le nom de la capitale du Canada, a été signé en 97, ratifié en 99.
Oui.
On est en 2017 et c'est un sujet toujours d'actualité. Donc c'est bien pour ça que ces journées internationales de sensibilisation existent.
Hein. Bien sûr. Au mois de mars, là, vous avez lancé une nouvelle campagne, hein. C'est bien ça, pour condamner les bombardements, notamment, qui se poursuivent en Syrie et en Irak. Vous nous en parlez un peu ?
Oui, parce qu'en fait, Handicap International, il y a 25 ans, avait participé à la création d'une mobilisation citoyenne qui avait abouti au traité d'Ottawa, et c'était passé par la mobilisation des individus. Une ONG comme Handicap et comme ses partenaires n'est rien si on n'a pas derrière nous le poids du public qui refuse un certain nombre de choses. Donc cette pétition, c'est l'arme la plus simple en même temps, mais en même temps la plus forte qu'on peut remettre aux autorités, alors soit aux autorités du Canada, mais principalement aux autorités des Nations Unies, pour rappeler à tous ces gens-là qui nous gouvernent qu'il y a un certain nombre de règles à respecter, y compris dans la guerre, et que l'usage de ces armes et l'usage des bombardements intensifs sur des zones peuplées, comme si on était bombardé ici sur Montréal, est strictement interdit. C'est même pas une option, c'est interdit.
C'est interdit.
Et ça crée énormément de victimes et derrière des communautés, des familles entières qui sont dévastées.
Pour signer, on passe par Handicap International ?
Sur le site internet, en effet, handicap-international.ca, on a un espace pétition et ça expliquera tout ce que je viens de vous dire d'une manière un peu plus résumée.
Jérôme Bobin, on ne parle jamais de choses gays, mais c'est votre vie. Puis il en faut des gens comme vous qui parlent de ces choses-là et qui agissent au sein d'Handicap International pour tout faire pour que les choses changent. Alors, merci beaucoup, puis merci d'être venu une nouvelle fois en studio.
Merci à vous, à bientôt.
Bonne fin de journée. Et dans le cadre de l'émission « C'est bon pour la santé » du 5 avril dernier, animée par Marianne Paquette, Marianne recevait France Cardinal Remette, chroniqueuse, mais surtout infirmière, auteure et enseignante, qui nous parle de son livre « Quand la vie se fragilise, un guide pour vous et vos proches aidants », histoire de mettre l'importance sur le fait qu'il faut prendre soin de soi quand on est un proche aidant.
France Cardinal Remette, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. On parle d'un sujet aujourd'hui, et on ne le savait pas, qui est quand même assez d'actualité, parce que 5 avril, journée mondiale du travail invisible, donc celui souvent des parents, papa, maman, des bénévoles et des proches aidants. Et c'est de ça que l'on parle aujourd'hui, du travail des proches aidants, qui est un travail parfois exigeant, en fait souvent et sur plein d'aspects psychologiques, physiques, financiers. Ça vient chercher des aspects aussi, bon, la famille, le travail, hein, on sort de nos zones de confort. Et vous êtes là aujourd'hui, France, pour nous parler de comment s'aider, finalement, à être un meilleur aidant et aller chercher de l'aide. Il y a beaucoup de proches aidants au Québec et puis il y en aura davantage dans les prochaines années.
Oui, en effet. Au Québec, plus d'un million de personnes agissent comme proches aidants et parmi ce million, 20 % consacrent 10 heures et plus par semaine auprès d'un proche. Et on retrouve beaucoup les femmes, hein, comme proches aidantes aussi. Puis ce qu'on remarque, c'est que dans notre vie active, on est habitué à travailler beaucoup, les femmes, les hommes aussi, mais on est vraiment dans une intensité de travail. Hein. On doit élever nos enfants, travailler. Maintenant, la femme travaille à l'extérieur. On s'occupe de nos propres parents. On parle même de génération sandwich. Donc, on est un petit peu entraîné à toujours travailler et à ne pas penser à soi tant que ça.
Oui.
Hein? C'est ça. Alors, c'est le constat qui est fait, effectivement, quand on arrive à une étape où on doit vraiment s'impliquer plus intensément en tant que proche aidant ou proche aidante. Et très souvent, on passe en dernier. Hein? On se concentre sur la personne qui a des besoins, qui est qui vit une expérience de maladie, et on s'investit auprès de cette personne-là au dépens de soi-même, malheureusement. Et tu parlais de honte tantôt. Il y a aussi qu'on se pense, souvent les gens vont se penser l'expert pour prendre soin. Alors, même Marguerite Blais, à l'émission Deux filles le matin, tout dernièrement, disait « Ah ben non, moi, je voulais prendre soin de mon mari, j'étais l'experte et je voulais pas que personne d'autre s'en occupe. » Mais elle dit « Faut pas faire ça. » Elle donnait le message elle-même, elle qui s'est impliquée dans ce volet-là et qui continue à s'impliquer. Alors, on sait que il y a des signes, hein, quand on devient fatigué, on devient irritable. Les gens, entre autres, qui s'occupent des personnes qui ont des problèmes cognitifs, comme la maladie d'Alzheimer, vont voir leur sommeil entrecoupé plusieurs fois dans une nuit quand la maladie s'intensifie. Alors, ils vont manquer de sommeil. Ou vis-à-vis d'autres types de maladies, on doit se lever la nuit pour aider la personne à se rendre aux toilettes, par exemple. Alors, on devient irritable, on manque de concentration, on est fatigué au lever, c'est pas compliqué, hein? C'est ce que ça fait. On devient anxieux. Alors, il y a plein de signes à surveiller. Oui. Et puis, ce que je vois souvent, puis je l'ai observé en arrivant tantôt justement ici, je voyais un monsieur qui aidait sa dame, qui avait des gros problèmes de mobilité, qui était en fauteuil roulant, puis il l'aidait à entrer dans la voiture. Et je l'entendais, là, qui était un petit peu irrité, là, en lui parlant. Il haussait le ton, puis bon. Alors ça, quand on arrive à ce point-là, c'est parce qu'on est vraiment épuisé.
Oui.
Ce sont des signes.
Vous dites, France, et c'est intéressant, on se dit l'expert de notre proche. Et parfois aussi, on veut être le super-héros. On pense qu'on est indispensable. C'est moi qui le fais, c'est ma responsabilité, j'ai pris l'engagement, il n'y a personne d'autre. Faut dire que parfois aussi, la famille veut bien aider, mais avec les étapes, hein, c'est souvent des étapes à long terme, être proche aidant, l'aide s'amenuise et on devient aussi, on a l'impression qu'on devient la seule personne pour notre proche.
Exactement. Puis c'est ça le danger. Alors, ce qui arrive, c'est qu'au début, tout le monde est là, tout le monde veut aider, tout le monde a de la, une bonne volonté là, de nous supporter, supporter l'autre. Mais avec le temps, là, ces gens-là, ils se désengagent tranquillement. Puis souvent, il y en a une personne qui est beaucoup plus près et qui, vraiment, au risque de perdre sa santé, là, s'implique beaucoup auprès de la personne qui est malade. Alors, ce qui est très, très important, moi, je me suis documentée beaucoup, ben j'ai lu énormément. Ben et ce qu'on dit, c'est qu'il faut d'abord comprendre ce qui se passe vraiment avec la personne qui vit une expérience de santé. Alors, la personne dont on prend soin, là, qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, il ne faut pas se gêner, questionner le médecin, l'équipe de soins, l'infirmière pivot. Moi, je prends soin présentement d'un oncle qui est très malade. Et ça m'a pris du temps avant de trouver la personne qui connaissait vraiment le dossier de cet oncle-là et qui faisait les démarches pour lui. C'était une infirmière pivot en oncologie, parce que ce n'est pas toujours la même personne dans un milieu hospitalier. Alors, c'est elle qui est devenue ma personne ressource et qui, ça m'a donné un réconfort inouï de pouvoir me reposer, si on veut, sur cette personne-là, qui est vraiment ma personne clé, là, puis qui communique avec moi. Alors ça, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer hein, quand on est malade. C'est pas toujours des cas de cancer ou des cas de cancer qui vont aller vers des soins palliatifs rapidement. Comme dans cette situation-là, il y a des services de réadaptation qui vont être offerts. Alors, il y a un transfert dans un centre de réadaptation. Alors, il faut être au fait de ces démarches-là qui vont se faire puis s'y préparer également. Et il ne faut pas perdre de vue qu'on n'est pas tout seul. Mm-hmm. On n'est vraiment pas tout seul. Il faut se créer un réseau. Alors, premièrement, la personne elle-même qui vit l'expérience de maladie doit absolument être impliquée à toutes les étapes. Elle doit être impliquée à la prise de décision par rapport à sa santé. On n'est pas là pour se substituer parce qu'elle est malade. Non, mm-hmm, non. Mm-hmm. Elle doit être très présente. Et ça aussi, c'est un appui. On ne se sent pas coupable de rien parce qu'on a pris les décisions à deux. On a cheminé ensemble. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, se créer un réseau d'aide, une équipe. Il y en a qui vont l'appeler l'équipe d'entraide. Alors, ça peut être d'autres membres de la famille, des proches, des amis, des voisins qui étaient très près de cette personne-là. Il y a aussi tous les professionnels de la santé qui interagissent. Alors, eux aussi font partie de cette équipe d'entraide. Et c'est important de s'épauler, puis d'organiser un peu aussi, comme quand il y a question de visite, d'accompagnement, de période de répit qu'on veut s'offrir. Alors, on fait venir quelqu'un pour demeurer avec la personne qui est malade. Alors, c'est important d'organiser tout ça avec ces gens-là, puis d'exprimer nos besoins.
Oui. Des fois, l'aide, elle peut venir de « peux-tu garder les enfants? Peux-tu aller me faire des courses? » C'est indirect aussi. Oui. C'est pas nécessairement lié à notre rôle de proche aidant.
Non. Il y a d'ailleurs aussi les organismes communautaires et il y a des ressources privées, soit des entreprises ou des travailleurs autonomes qui peuvent être mis à contribution également. Mais il y a beaucoup de ressources qui existent, mais on ne les connaît pas finalement.
J'ai envie de vous arrêter avant qu'on poursuive avec les ressources, France, sur la communication puis le contact qu'on a avec notre proche, celui que l'on aide, de lui dire « Écoute, parfois, j'ai besoin d'une pause. Ça va être ma sœur qui va venir te voir à l'hôpital ou ça va être le voisin qui va aller avec toi à ton rendez-vous. » Il faut être capable de le dire aussi.
Oui, absolument. Moi, je l'ai fait justement tout dernièrement avec cet oncle dont je parlais. Puis il était tellement content d'avoir des nouveaux visages, nouvelles personnes qui venaient, qui parlent de d'autres choses, qui l'écoutent. C'est un monsieur qui aime beaucoup parler. Alors, ces gens-là viennent une fois par semaine, une fois par deux semaines, puis sont à l'écoute. Et ça fait toute une autre dynamique.
Hein. Ça nous revitalise aussi
beaucoup.
En tant que prochain
Alors,
aidant.
Alors, ça aide la personne et ça nous aide nous-mêmes. Et j'aimerais beaucoup parler des ressources,
Bien
parce
sûr.
Qu'on ne les connaît pas toutes, ces ressources-là. J'en ai découvert des pas mal intéressantes. Entre autres, on sait qu'il y a des ressources de répit quand on est à domicile. Admettons, là, la personne a été hospitalisée, elle revient à domicile, puis là, on s'en occupe intensément et on veut du répit. Oui, il existe des ressources, soit d'hébergement temporaire ou des personnes qui peuvent venir à domicile pour un bloc de 3 heures, par exemple, pour nous permettre d'aller ailleurs. Il y a aussi des centres de jour qui peuvent accueillir des gens, entre autres pour des gens qui ont des problèmes cognitifs ou qui ont certains problèmes de mobilité. C'est avec le CLSC, qui font partie maintenant des centres intégrés de santé et services sociaux, qu'on peut rallier tout ça, là, puis faire la demande et puis pouvoir avoir ces ressources. Il y a d'autres ressources aussi, l'appui. Je veux vraiment vous parler de cette ressource-là, qui est vraiment une ressource qui existe à travers le Québec. Alors, l'appui permet d'identifier, dans le fond, les ressources possibles. Ils ont un service qu'on appelle Info Aidant. Ils font de l'écoute, ils donnent l'information et des références. Leur numéro de téléphone, je vais le donner tout de suite, 1-855-852-7784.
Et on mettra ça sur notre site web.
Oui. Ils ont aussi un répertoire de ressources par région. On entre notre code postal et ils ont des catégories comme répit, information, documentation. Ils ont des activités de formation parce que formation, quand on est proche aidant, personne ne se forme pour être un proche aidant. Ouais. Ça nous arrive comme ça. Alors, un peu partout au Québec, il y a des activités de formation fort intéressantes pour vraiment outiller les personnes, les supporter et les aider. Il y a aussi de la documentation juridique et fiscale, de l'information sur l'aide à domicile, l'entraide, soutien, transport, hébergement. Mm-hmm. Alors, il y a beaucoup de sujets qui sont couverts par cet organisme-là. Et il y a toujours aussi le regroupement des aidants naturels du Québec au www.ranq.qc.ca où on peut aussi aller chercher toutes sortes de ressources, d'outils qui peuvent nous aider. Et on peut, avec le service, je voudrais revenir à l'appui, là, il y a aussi un soutien psychosocial là, qui peut être offert et qui peut être vraiment nécessaire dans plusieurs situations.
Et il y a toujours votre livre, France Cardinal Remette, Quand la vie se fragilise, un guide pour vous et vos proches aidants. C'est aux éditions Multimonde, qui est vraiment la Bible du proche aidant. Je veux terminer sur une chose. Vous avez parlé de l'appui et de ses services psychosociaux. Quand on arrive proche aidant, vous l'avez dit, France, quand ça nous arrive, en fait, ça nous tombe sur la tête, il n'y a pas de baccalauréat pour apprendre ça. Il y a une attitude aussi, on a l'impression que c'est une fatalité. On se dit, pourquoi ça a tombé sur moi? Pourquoi j'ai à vivre ça? Est-ce qu'il existe de l'accompagnement aussi pour apprendre à mieux accepter ce qui nous arrive?
Bien, je pense qu'avec les ressources que j'ai données, oui, l'accompagnement est disponible. Et partout dans les écrits, on dit aux gens, on leur dit, là, il faut que vous modifiez votre attitude, il faut être positif. Parce que la vie est comme ça, hein? C'est un cheminement, puis ça ne peut pas toujours être les joies extraordinaires tout le temps. Et moi, j'avoue que j'étais souvent réticente d'être proche aidante, ça m'est arrivé souvent, mais j'ai tellement appris sur moi-même et j'ai appris sur les autres aussi, sur l'être humain, et ça m'a rendue plus forte, vraiment plus forte, plus heureuse aussi dans ma vie.
France Cardinal Remette, vous êtes infirmière, enseignante et auteure de ce livre « Quand la vie se fragilise ». Toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci.
Merci.
Alors, nous allons prendre une petite pause et on se retrouve tout de suite après avec d'autres sujets. Le National, seconde partie, toujours animée pour vous sur les ondes de Canal M par Clotilde Seil. Cette fois-ci, on retourne à la journée du 5 avril, à l'émission C'est bon pour la santé, alors que Marianne Paquette accueillait Roger Godbout, directeur du laboratoire et de la clinique du sommeil de l'hôpital en santé mentale de Rivière-des-Prairies, qui nous parle des troubles du sommeil chez l'enfant.
Les troubles de sommeil chez l'enfant sont beaucoup plus fréquents que l'on pourrait le penser et ça affecte toute la famille. On en parle à l'instant avec Roger Godbout, il est psychologue, professeur de psychiatrie à l'Université de Montréal et directeur du laboratoire et clinique du sommeil de l'hôpital Rivière-des-Prairies. Roger, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Un plaisir de vous retrouver, Roger Godbout.
C'est partagé.
Troubles de sommeil chez l'enfant qui toucheraient 25 % d'entre eux, ça me semble d'une part énorme, Roger. Et j'imagine que les causes sont multiples.
C'est effectivement un chiffre élevé. C'est assez courant. Il y a une période de l'enfance où le sommeil est plus fragile. Les tout-petits de moins d'un an, ils vont en général bien dormir, sinon au moment où il y a des bobos, des trucs comme ça. Entre 1 et 10 ans, il y a tout un apprentissage pour l'enfant à devenir autonome par rapport à son sommeil. Il va se servir du moment du coucher pour négocier toutes sortes de trucs, le contact avec papa, avec maman. Donc, ça peut être, il peut y avoir avoir une incidence assez élevée, en effet, et ça prend toutes sortes de formes. Ça prend des formes un peu comparables à celles des adultes, c'est-à-dire avoir du mal à s'endormir, avoir du mal à demeurer endormi. Une fois qu'il est réveillé au milieu de la nuit, il ne se rendort pas, se réveiller trop tôt. Mais on inclut aussi chez les enfants la résistance au coucher. La période noire là, qui précède le coucher, la fermeture des lumières, où l'enfant devient irrité, négocie sur tout, veut pas se coucher, parce que l'enfant en général veut garder le contrôle sur son environnement, sur son sommeil, puis ça peut être un peu long et difficile.
C'est ce qu'on appelle, Roger, la résistance au sommeil.
Exactement, c'est la résistance au coucher, même comportementalement. Il voudrait peut-être bien dormir, parce qu'on sait qu'un enfant qui s'endort, c'est pas un enfant qui baille tant que ça, c'est un enfant qui va être un peu plus agité, un peu plus irritable, un peu plus impulsif. Et cet enfant-là donc, va manifester ça parce qu'il veut, il ne veut pas quitter le monde du jour, bien souvent. Il peut craindre ce qui se passe la nuit, mais il n'a pas appris à s'approprier ce moment-là à lui. Donc, cette résistance au coucher-là fait partie des signes qui sont compatibles avec un diagnostic, je pourrais dire, ou avec le constat qu'il y a un trouble de sommeil chez cet enfant.
Et il faut y voir parce que ce trouble de sommeil, pendant l'enfance, peut avoir des répercussions dans l'adolescence et même l'âge adulte.
Absolument. D'abord, déjà, chez l'enfant, au moment où il vit cette période de mauvais sommeil-là, d'insomnie, il y aura des difficultés de gestion de l'humeur, des problèmes à l'école, bien souvent, des problèmes même de santé physique quand on ne dort pas bien. C'est vrai chez les adultes, c'est vrai chez les enfants. Les grippes ou les rhumes vont durer plus longtemps. Ça peut avoir un certain impact aussi sur la prise de poids, s'il y a une mauvaise gestion de l'alimentation et du sommeil, parce que les deux, parfois, vont de pair. Donc, ça peut causer des problèmes comme ça. Rendu chez l'adolescent, ce qu'on va retrouver, c'est un trouble de sommeil qui va être dû au fait que à l'âge de l'enfance, l'adolescent n'aura pas appris à avoir une hygiène de sommeil qui est compatible avec une bonne qualité de sommeil. Avoir un horaire relativement bien organisé, se ménager un moment de tranquillité avant de fermer les lumières. Et n'ayant pas appris ça, c'est comme d'autres bonnes habitudes qu'on aura apprises lorsqu'on est plus jeune. Lorsqu'on ne les a pas avec notre sommeil, on aura un mauvais sommeil étant adolescent, et même peut-être jusqu'à l'âge adulte. À l'âge adulte, chez les jeunes adultes, il y a des périodes de pointe où on travaille très fort, on a des enfants, on travaille très fort, on veut gagner sa vie, on a un horaire, donc qui bouscule le temps de sommeil. Bien souvent, on va molester notre horaire de sommeil pour les autres occupations. Ben, ça aura des impacts parce que jeune, on n'aura pas appris ça.
Et on a des enfants qui ne dorment pas aussi. Ouais. Et j'en viens bien sûr au fait qu'un enfant qui a des troubles du sommeil, ça affecte toute la famille. Je le disais en introduction, papa, maman, moins concentrés au travail aussi.
Absolument, moins concentrés au travail, plus irritables, un peu plus impatients avec les enfants qui, eux, à leur tour, le deviennent encore plus impatients. Donc, il y a une espèce de boucle infernale là, qui peut se construire.
Roger, on viendra bien sûr sur ce programme de traitement comportemental Bonne nuit, jour meilleur, qui viendra en aide peut-être aux familles. Mais avant, j'aimerais vous entendre sur des trucs ou des conseils pratiques pour les parents qui nous écoutent pour favoriser le sommeil de leurs enfants?
Bien, pour favoriser le sommeil, d'abord, on peut difficilement détecter est-ce qu'un enfant fera de l'insomnie un jour ou pas. On va le voir à l'occasion si l'enfant a déjà un sommeil profondément perturbé par un événement qui nous semble assez anodin, tout bien considéré. Et la bonne chose pour prévenir, même si c'est un peu difficile de prévoir, mais si on veut prévenir, c'est de donner assez tôt à l'enfant un horaire assez régulier, de respecter le sommeil, ne pas en faire un moment plus important que le reste, mais c'est un moment important, autant que nourriture, bien s'habiller, etc., s'agiter un petit peu, là, bouger un peu, et en ayant un horaire régulier, je dirais, ça serait de favoriser la perception pour l'enfant du contraste entre le jour et la nuit. Par exemple, dans les minutes qui précèdent l'heure du coucher, ben, on ne fait pas faire l'avion à son bébé parce que c'est très excitant, c'est la partie du jour, puis c'est tout excitant, puis on n'est pas prêt à dormir à ce moment-là. Alors que l'horloge biologique voudrait bien qu'on dorme, on l'active en faisant plein d'activités comme ça. Il faut bien se rappeler que la fatigue n'est pas de la somnolence. Être fatigué d'avoir fait beaucoup d'exercices, d'avoir couru, d'avoir joué au hockey, même quand on est tout petit, ça ne nous endort pas nécessairement, on va être épuisé. On peut avoir les deux en même temps, mais ce n'est pas la même chose.
Ouais. C'est une question qui est récurrente, j'imagine, mais on pense souvent à l'alimentation de l'enfant. Est-ce que ça a à voir avec son sommeil?
Jusqu'à certains points, oui. De manger trop tard, de manger trop gras ou trop épicé sont des choses qui vont interférer avec un bon sommeil. Beaucoup d'enfants, je le remarque à la clinique, beaucoup d'enfants vont présenter des problèmes de reflux gastrique ou de brûlure d'estomac, et c'est souvent associé à une nourriture un peu trop grasse le soir, un peu trop abondante ou un peu trop épicée. C'est certain qu'on a souvent la soirée cinéma le vendredi, on a un peu de pizza, des choses comme ça. Il ne faut pas s'empêcher de faire ça. Mais de le faire régulièrement, il faut réfléchir à ça. Et la prise de poids va causer des problèmes de sommeil aussi.
Oui. De plus en plus, les adultes que nous sommes, lorsqu'on traverse des épisodes un peu plus insomniaques, on a des produits, on a entendu parler de tisanes que l'on peut prendre. Est-ce que c'est recommandé aussi chez l'enfant?
Non, chez l'enfant, on peut prendre d'abord, il n'y a aucun médicament qui est officiellement approuvé pour traiter l'insomnie de l'enfant. Il faut faire recours à des approches que l'on dit comportementales, c'est-à-dire basées sur le fait de donner des bonnes habitudes, de réapprendre, même comme parent, quelle est la bonne mise en contexte pour avoir une bonne nuit de sommeil. Et le programme Bonne nuit, jour meilleur, c'est ce qu'il propose. Ce programme-là est un programme qu'on a mis au point, quand je dis nous, psychologues, des médecins, des infirmières, on a mis au point un programme disponible maintenant en français qui permet aux parents qui ont un enfant qui souffre d'insomnie à apprendre comment travailler la partie de la résistance au coucher. Mm-hmm. Comment travailler la partie du réveil nocturne? Et on fait le tour de ces questions-là en 5 sessions. Et ces 5 sessions-là sur Internet, donc sont accessibles en tout temps, à tout endroit. On peut apprendre à bien remettre dans la bonne perspective les habitudes de sommeil, puis aider son enfant insomniaque à pouvoir mieux dormir, et les parents s'en trouvent d'autant plus soulagés eux-mêmes.
Roger, je pense qu'en ce moment, vous cherchez des familles pour le programme Bonne nuit, jour meilleur. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques?
Il y a des critères pour pouvoir participer à l'étude. On peut les voir dans le site web, mais je peux en résumer quelques-uns. C'est que ce qu'on recherche, ce sont des enfants qui font de l'insomnie, c'est-à-dire des enfants qui dorment mal, et les parents sont soucieux à ce propos-là. Des enfants qui font de l'insomnie, mais qui n'ont pas d'autres troubles, par exemple médicaux. Ce sont des enfants qui n'auront pas de retard de développement, qui ne souffrent pas d'asthme, qui ne souffrent pas d'épilepsie, par exemple, ou qui n'ont pas de diagnostic de santé mentale, comme des enfants qui souffrent de troubles déficitaires de l'attention, de troubles du spectre de l'autisme, de troubles anxieux ou de dépression. Ça, c'est des enfants qu'on peut voir, nous, à la clinique à Rivière-des-Prairies, mais qui ne sont pas éligibles pour cette étude-là, parce qu'on veut commencer par des enfants qui n'ont pas d'autres troubles concomitants, afin de bien cibler le trouble de sommeil lui-même seul. Il ne faut pas de diagnostic médical de troubles de sommeil comme les apnées non plus. Donc, ce sont des enfants qui font de l'insomnie que l'on appelle comportementale, résistance au coucher, réveil nocturne, sans qu'il n'y ait rien qui puisse expliquer ça. Et là, ces enfants-là, les parents de ces enfants-là peuvent profiter de ce programme-là.
Et avoir un enfant âgé entre 1 an et 10 ans, avoir accès, bien sûr, à un ordinateur, une connexion Internet. Pour en savoir davantage, on peut aller sur votre site, Roger.
Oui. Ce site-là, c'est le site Better Night, Better Days, au pluriel, .ca. Et dans ce site-là, betternightbetterdays.ca, il y aura un onglet français et on va là-dessus. Il y aura toute la bonne description des critères, de la durée. Je peux vous dire que c'est un programme qui dure de 5 à 10 semaines, 5 sessions à compléter en 5 à 10 semaines. C'est assez simple. Beaucoup de feedback, beaucoup d'appui, un suivi aussi qui est fait ensuite pour savoir si tout se passe toujours bien. On fait vraiment ça pour pouvoir aider les familles à ce que leurs enfants puissent avoir un meilleur sommeil.
À mieux dormir. Oui, c'est important, le sommeil. On en parle de plus en plus, et tant mieux. Roger Godbout, vous êtes psychologue, professeur de psychiatrie à l'Université de Montréal et directeur du laboratoire et clinique du sommeil de l'Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies. Merci beaucoup. Toujours un plaisir.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Portrait de famille sur les ondes de Canal M, voilà une émission que je vous recommande de découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et dans le portrait de famille du 3 avril dernier, nous découvrons la famille de Jean-Paul Hyde, bédéiste de profession, mais aussi le papa de Mathilde, 21 ans, et Axel, 16 ans. Axel qui vit avec de multiples handicaps causés par la paralysie cérébrale. Vous aviez peut-être manqué ce rendez-vous que nous donne Marianne Paquette. Le revoici.
Aujourd'hui, je vous présente la famille de Jean-Paul Hyde, papa de la grande Mathilde, de 21 ans, et d'Axel, 16 ans. Et si vous êtes fan de BD, vous connaissez Jean-Paul, peut-être sous son autre chapeau pour sa collaboration pendant des années au magazine Crow, magazine humoristique, plus particulièrement les aventures de Jérôme Bigrand. C'est l'auteur, Jean-Paul, aussi, des Tondeuses et des Hommes, ainsi que Le fond du trou que j'ai sous les yeux. Et bon, il a collaborer à plein d'autres projets et magazines. Comme vous le savez maintenant, je me suis inspirée du parcours de Jean-Paul, ses engagements, ils sont nombreux, ses défis, ses intérêts pour bâtir l'émission. Jean-Paul Hyde, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Merci de nous présenter cette famille qui est la vôtre. On peut voir cette photo en ce moment qui circule sur nos médias sociaux avec Marie-Mathilde. Marie, votre conjointe, Mathilde. Mm-hmm. Mathilde, votre grande fille et... bien sûr, Axel, une photo qui date d'à peu près 2 ans.
Je ne sais pas trop, en fait. Je le regarde, Axel, ça fait peut-être même un petit peu plus que ça, parce que sur la photo, je le tiens, il est assis sur mon ventre, et aujourd'hui, ça sera à peu près impossible.
Parce qu'il est grand, Axel.
Oui, il est grand. Moi-même, je suis une grande échalote, puis je pense qu'il tient plus des gènes de son père que de sa mère, de ce côté-là. Donc, c'était une époque, c'est ça, où on était encore capable de faire des culbutes, de faire des crises de chatouille et de se rouler dans l'herbe avec lui, c'était encore faisable.
Jean-Paul, Axel, il vit avec une paralysie cérébrale qui entraîne de multiples handicaps chez lui. Comment ça se manifeste?
Bon, alors Axel, multi-handicapé, paralysie cérébrale, donc évidemment un handicap moteur qui l'empêche de marcher. Il est en fauteuil roulant, il ne peut pas le mouvoir par lui-même, il ne peut pas manger, donc il faut lui donner à manger. Évidemment, tout ce qui est soins d'hygiène, ce n'est pas lui qui peut s'en occuper. Et il ne parle pas, mais il communique avec un tableau de pictogramme. Évidemment, parce qu'il a aussi une déficience intellectuelle. Donc, c'est souvent assez laborieux de communiquer avec lui. Il réussit à faire des phrases courtes et des besoins. Il manifeste ses besoins immédiats. Bon, je veux écouter la télévision. J'ai faim. Je veux voir grand-mamie, par exemple. Alors, c'est de cet ordre-là. Et donc, c'est ça. Axel est vraiment dépendant de nous. Dans toutes les sphères de sa vie. Il a quelques activités où il est capable d'être autonome. Il adore la lecture, même s'il n'est pas capable de lire. On passe à la bibliothèque au moins une fois par semaine. On écume les bibliothèques de la ville de Montréal.
Est-ce qu'il aime la BD?
Il commence à aimer la BD. Oui. J'ai trouvé quelques titres qui le fascinent, mais il faut le lire avec lui parce qu'il ne suit pas nécessairement le sens de lecture. Et évidemment, il adore tout ce qui est télévision, bien sûr, mais aussi quelques jeux vidéo adaptés pour un âge préscolaire. Ouais. Et là-dedans, il est autonome.
Et il a plein d'amis. C'est un rayon de soleil.
Oui.
On y reviendra mm-hmm. tout à l'heure, Jean-Paul. Je vais parler un petit peu de sa naissance. Donc, mm-hmm. grossesse, tout ce qu'il y a de plus régulière, mm-hmm. accouchement ou naissance. Horrible.
Oui, oui.
À ce moment-là, bon, on se doute pas qu'il y a nécessairement un problème. À 3 mois, vous avez peut-être un indice. Mm-hmm. Vous écoutez des cassettes,
ouais,
des balbutiements.
Ouais, c'est ça.
Vous arrivez peut-être à faire une comparaison avec votre grande Mathilde. Mm-hmm. Parce que, bon, vous êtes parent déjà à ce moment-là. Vous êtes passé par différentes étapes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là à l'écoute de ces cassettes-là?
Alors, en fait, on écoute une cassette qu'on avait enregistrée. Moi, je faisais parler Mathilde. Mathilde qui est née à peu près à la même date, donc en disant, bon... 2 avril, etc. Et j'entendais le développement de ses balbutiements, les premiers mots qu'elle disait. Et on réécoute cette cassette-là. Et là, on se rend compte qu'en fait, ce qu'on entend, ça n'a rien à voir avec ce qu'Axel émet comme son. En fait, il n'émet à peu près pas de son. Et là, ça a été le premier indice. On est allé voir avant tout du côté de l'ORL, savoir est-ce qu'il y aurait un problème de surdité, est-ce qu'il y a un problème de corde vocale. Après plusieurs semaines d'investigation, on ne sait toujours pas, et c'est à ce moment-là qu'on va en clinique de développement. Et là, devant un scan, on voit qu'Axel a des lésions au cerveau. Et là, ben, c'est clair, c'est vraiment une paralysie cérébrale.
Oui, à peu près vers 6 mois. Et à ce moment-là, ce qui vous survient peut-être en tête, et à Marie également, c'est quoi ça,
oui.
La paralysie cérébrale?
Exactement. On n'a absolument aucune image, sinon que celle des télétons de l'époque. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Premier réflexe stupide, c'est d'aller sur Internet et de lire des trucs qui ne sont pas représentatifs. C'est évidemment des exemples, mais sur lesquels on ne peut pas se fonder. Et ce qui est particulier avec la paralysie cérébrale, c'est que c'est des accidentés au même titre qu'il y aurait des accidentés de la route. Il n'y en a pas deux pareils. Ouais. Les lésions ne sont pas nécessairement au même endroit. Et le cerveau est très malléable, surtout quand les enfants sont jeunes. Il y a des facultés qui peuvent migrer d'une région à l'autre, ce qui fait qu'il est très difficile de prévoir le développement de l'enfant. Donc, il ne parle pas, mais est-ce qu'il parlera un jour? Est-ce qu'il va être capable de développer telle faculté plutôt que, ou telle autre faculté? On est dans le néant et on avait beau essayer auprès de tous les thérapeutes qu'on a rencontrés, essayer de savoir où est-ce qu'il pouvait se situer dans le spectre du handicap, c'était très difficile d'avoir des réponses. Et aujourd'hui, je le comprends en fait, parce que tout était à faire. Il y avait énormément de développement qui était encore possible avec des thérapies, mais en même temps, on est dans le néant. C'est-à-dire, on est obligé de... C'est vraiment au jour le jour de se dire... C'est des petites réussites. Axel est tout à coup capable de tenir la balle, est capable de redresser sa tête. C'était de cet ordre-là. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a fini, qu'on est passé à travers avec de l'aide jusqu'à, en fait, jusqu'à aujourd'hui.
À ce moment-là, arrive la ronde de tous les services, de tous les spécialistes, de tous les rendez-vous, et aussi ce que vous avez commencé à nommer, Jean-Paul, ce néant-là, aussi des services et de l'accompagnement. Ce qui a fait de vous, et probablement que vous l'aviez déjà très fortement à l'intérieur, ce militant-là, de militer pour les droits de vos enfants, de tous les enfants, pour les services, et de se rendre compte que bien souvent et malheureusement, ce sont les premières victimes des coupures du système.
Oui, tout à fait. C'est un... Bon, moi, je suis... Comment je dirais bien? Je pense que j'ai été élevé par une mère qui était très près... Elle a travaillé beaucoup dans tout le domaine de l'immigration, l'accueil des immigrants, et j'ai baigné là-dedans, moi. Donc, les causes de ces gens-là, de la différence, en fait, ça m'a toujours beaucoup touché, même si je n'étais pas personnellement touché par ça. Et quand Axel est arrivé, là, je pense que c'est revenu un peu de façon naturelle. Et là, on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait une espèce de double discours où on nous disait, c'est en ce moment qu'il faut faire des tas de choses. Il est jeune, tout est à faire. Si on veut qu'il apprenne à parler, si on veut qu'il apprenne à employer un tableau de communication, si on veut qu'il apprenne à marcher, il y a des thérapies qu'il faut faire et c'est maintenant qu'il faut les faire. Et d'un autre côté, on vous dit, ah ben oui, mais il y a des coupures, il n'y a pas d'orthophoniste. Une espèce de contre-discours qui faisait qu'on était au milieu au milieu de tout ça, à devoir prendre des décisions et à devoir frapper aux portes et des fois lever le ton pour dire non, là, ça suffit. On nous promet des choses, on nous dit qu'Axel a besoin de certains services pour son développement, mais en même temps, on n'est pas capable de nous les offrir. Et dans ce cas précis, et c'est là qu'il y a vraiment une injustice devant laquelle moi, je peux pas laisser passer ça. C'est des enfants qui sont... C'est les citoyens les plus vulnérables de notre société, c'est ceux qui ne pourront jamais prendre le micro simplement parce qu'ils n'ont pas les mots. Et de se dire que quand on coupe au bout de la chaîne, c'est ces gens-là qui vont payer. Moi, je trouve ça complètement inacceptable.
Je veux parler avec vous, Jean-Paul, de ce court récit, cette très courte BD que vous avez créée en 2012, un collectif Montréal-Lyon. Mm-hmm. C'était, je pense, des BDistes de la France et d'ici.
Oui, en fait, on nous avait contactés pour faire une espèce d'échange entre des auteurs de Lyon et des auteurs de Montréal. Et le but de l'exercice, c'était que chacun allait montrer un aspect méconnu de sa ville. Alors évidemment, à Montréal, il y en a qui ont parlé de Schwartz, du cimetière du Mont-Royal, etc. Moi, je me suis creusé la tête en me disant probablement que ce que je connais comme secret le mieux gardé, c'est probablement l'école de mon fils, qui à l'époque était Victor Doré.
L'école spécialisée.
Primaire, et je la connaissais par le truchement du service de garde parce que c'était par là que je réussissais à rentrer dans l'école et à avoir un contact avec les enfants. Ce qui fait que j'ai décidé sur deux pages de finalement présenter un petit peu la « faune » entre guillemets qui m'accueille tous les jours à 4h ou 4h30 quand j'allais chercher mon fils. Et les premiers qui me sautent dans les bras, les autres qui chantent et ceux qui jouent à cachette.
Axel qui se cache dans le garde-robe.
Axel qui se cache toujours à la même place. Et puis moi, je dois faire semblant que je le cherche, que je le trouve pas. Et en fait, toute l'astuce de cette bande dessinée-là, c'était de parler de tous ces enfants-là qu'on voit, dont certains sont en marchette, d'autres sont en fauteuil, mais en ne mentionnant jamais l'handicap, en ne parlant que des particularités, des personnalités de chacun, et de dire qu'en fait, voilà, c'est probablement le secret le mieux gardé de ma ville.
Oui.
Parce que c'est des enfants qui sont invisibles, c'est des enfants qu'on ne voit pas dans les cours d'école, c'est des enfants qu'on ne voit pas dans les ruelles, qui ne jouent pas au hockey.
On ne voit pas dans les parcs.
On les voit nulle part, ouais. C'est ça. Et pourtant, derrière ces vitres-là, les vitres de cette école-là, il y a toute une vie. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on a beaucoup d'appréhension, à l'idée d'aller dans une école comme ça, d'être secoué, moi, c'était ma bouffée de fraîcheur de la journée quand j'allais là. C'est du bonheur incarné, j'allais dire du bonheur sur roulette, là, mais c'est vraiment ça. C'était des enfants foncièrement heureux.
D'ailleurs, vous avez donné comme titre à ce cours ici l'école des enfants invisibles. Mm-hmm. On en parlait tout à l'heure, invisibles, oui, bon, dans oui. les parcs, dans les mm-hmm. lieux, mais dans la société oui. et auprès des décideurs
Exactement.
Aussi.
Oui, c'est ça. En fait, c'est un des problèmes, en fait, je dirais, des personnes handicapées, c'est qu'on les ghettoise. En voulant leur offrir des services, on leur offre des services et c'est pas de l'intégration, ce n'est pas de l'inclusion. On leur offre une école juste pour eux. Moi, j'aurais rêvé d'une école où il y aurait eu des périodes où ils auraient pu être avec une classe ou une école affiliée, où ils auraient pu avoir des activités ensemble parce que, je prends pour exemple l'époque de la garderie, jamais Axel n'a fait autant de progrès qu'au moment où il était avec des enfants non handicapés, avec des enfants qui grimpaient après les rideaux, qui faisaient des bêtises. Lui, il voulait faire la même chose. Et je dirais que même les thérapeutes de l'époque devaient venir en garderie pour voir de leurs yeux ce qu'Axel était capable de faire parce qu'ils n'étaient pas capables de le voir en thérapie. Tandis qu'à la garderie, en voulant faire du mimétisme avec les autres amis autour, tout à coup, on se rendait compte qu'il était capable de faire des choses qu'on ne soupçonnait pas.
Oui. Et Axel, c'est un jeune homme qui est heureux au contact des autres aussi.
Oui, oui. Ça, très tôt, on l'a mis en confiance. Il est passé de main en main. On l'a fait garder par toutes sortes de monde. On savait que pour accueillir cet enfant-là, il fallait que lui fasse l'effort, et l'effort qu'il avait à faire, c'est d'être capable de faire confiance aux gens autour de lui. Mm-hmm. Donc, il y a eu évidemment énormément d'intervenants, mais dans notre entourage aussi, on a été gâtés. On a été gâtés parce que dans la famille, il y a des gens qui nous ont aidés, qui nous ont offert même de garder Axel, qui sont allés au-devant de ce qu'on exprimait comme besoin. Et Axel a eu comme ça un très grand cercle social autour de lui, même si évidemment, à cause de sa déficience intellectuelle et de ses limitations, son interaction est quand même limitée, mais c'est un enfant qui est foncièrement heureux quand il y a du fun qui est pogné autour de la table. C'est une éponge, il est très heureux, même s'il ne participe pas aux conversations. C'est vraiment, je dirais que c'est l'endroit où il est le mieux, c'est en groupe.
Oui. Il y a aussi cette relation toute particulière avec sa grande sœur, Mathilde,
qui est
en Europe en
ce moment.
Oui,
en ce moment, oui, tout à fait.
Mais ils arrivent à communiquer par Skype.
Ben oui, et Axel demande de parler à Mathilde par le iPad. Il dit « Mathilde, iPad » ou « Mathilde, téléphone » parce qu'il veut lui parler. Il ne comprend pas encore trop l'idée de dire « bye-bye » à un téléphone. Il nous regarde d'un drôle d'air quand on lui dit que la conversation est terminée. Mais il demande à la voir. Mathilde fait toujours partie de sa vie. Il faut dire que Mathilde, de 5 ans son aînée, ça a été très rapidement la troisième adulte de la famille. Ça a été quelqu'un d'extrêmement significatif pour Axel, et c'est quelqu'un de très généreux. Je pense qu'elle a
l'empathie infusée.
L'empathie, exactement. Et puis, à cause de la réalité qu'on vivait à la maison, c'est quelqu'un qui a été... très facilement, elle va aider, elle va se proposer.
Les au-delà des besoins.
Elle est vraiment... Ouais. Voilà, elle sait ce que c'est.
Jean-Paul, souvent, lorsqu'on parle à des enfants en situation de handicap, on entend cet isolement-là qui les guette, une espèce de pas de rejet de la société, mais de soi-même s'isoler, je dirais. Et dans votre cas, c'est pas du tout ça que j'entends. Il y a un réseau, un tissu social très, très riche mm-hmm. qui s'est greffé à vous, que vous avez entretenu aussi.
Oui, tout à fait. Nous autres, on s'est dit... En fait, les parents, on est aussi des bêtes sociales. On a un grand réseau d'amis. Puis Axel a toujours fait partie de ça. Un grand réseau de la famille aussi. Mais je dirais que c'est quelque chose qu'il faut entretenir et il faut se forcer pour l'entretenir. Et en vieillissant, c'est un peu ça qui me fait peur, honnêtement, quand on parlait de l'après 21 ans. L'après 21 ans, c'est ça. C'est évidemment, on rêve d'avoir un lieu accessible, un lieu adapté pour lui. Mais moi, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est la socialisation. Si ces enfants-là, on ne leur donne pas de service, c'est que le gouvernement, tout ce qu'il fait, c'est devant cette absence-là de service, c'est de nous donner un chèque, un crédit d'impôt. Ben voilà, mon fils, il va rester chez moi et c'est moi qui vais devoir faire toute l'organisation pour essayer de lui former un cercle social, de lui trouver des amis. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. On a besoin d'avoir de véritables services. Et des services, évidemment, c'est des services de thérapie, mais c'est aussi un lieu où ces enfants-là vont pouvoir socialiser, vont pouvoir avoir une place dans la société et qu'on puisse les sortir des petits ghettos où ils sont pour que les gens arrêtent de dire des inepties sur les handicapés, des inepties sur ce que ça coûte adapter des édifices ou adapter des autobus, parce que, soi-disant, ils n'en voient jamais. Mais c'est ça. Ouais. Il faut les voir. Il faut que ces gens-là aillent sur les trottoirs, aillent dans les centres d'achat, qu'on les voit et qu'ils fassent partie de la société aux yeux de tous.
Oui. Comme je vous le disais, une très bonne émission que ce portrait de famille animé par Marianne Paquette. Voilà, c'est ainsi que se referme le National cette semaine. Je voudrais remercier toute l'équipe qui rend possible la création, la réalisation de cette émission à chaque semaine. Je pense à Martin Forgue, je pense à Mathieu Tessier, à Jean-Sébastien Laliberté, à Louise Vien. Et c'était Clotilde Seille au micro qui vous exhorte, qui vous invite à peut-être aller sur notre site, à le visiter, canalm.vusezvoix.com, pour réécouter toutes ces émissions quand bon vous semblera. À la semaine prochaine.